Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La clé de la voix est en association avec la maison de la voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoix@gmail.com. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce la prochaine conférence de la Maison de la Voix qui aura lieu jeudi 20 janvier à 20h en ligne avec l'intervenante Annie Paris sur la thématique d'une approche sensorielle de la voix par la psychophonie selon Marie-Louise Auchet. J'espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Loubiana dans le podcast La Clé de la Voix. Loubiana, c'est un son à part, ainsi qu'un timbre et des mélodies envoûtantes. Elle est également l'une des premières femmes au monde à s'accompagner à la kora. Bien que selon la légende, la première kora était l'instrument d'une femme génie qui vivait dans les grottes de Missirikoro au Mali. Impressionnée et émue par la musique de l'instrument, un grand chef de guerre l'en aurait dépossédée pour s'approprier son instrument, qui fut ensuite transmis de père en fils chez les griots. Dans cet épisode, Loubiana nous parle de techniques vocales, de musique, de tableaux de visualisation. Loubiana revient sur le chemin qu'elle a parcouru, de ses débuts, où le public servait à combler un manque d'amour propre, jusqu'au moment où elle a trouvé sa place, chantant pour donner et non pour recevoir. Nous écouterons son album Beloved, ainsi que Prière pour nos guides, en duo avec son amie Barbara Pravi. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Loubiana.
Bonjour Clémentine.
Alors je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. J'ai l'impression de te connaître déjà un peu avec ton merveilleux podcast Bi, dont on parlera plus tard car j'ai envie de garder une certaine chronologie de parcours dans les épisodes.
Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, tu sais peut-être plein de choses. En tout cas, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour partager, donc on en reparlera.
Tu viens d'une famille où l'on t'a initié à la musique dans l'enfance, d'abord avec le piano, puis tu es allé de toi-même vers la guitare. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce que tu ressentais quand tu étais sur scène lors de tes premiers spectacles de fin d'année en école de musique?
Alors, moi je me souviens très longtemps en fait chercher ma place. J'étais une petite fille qui avait beaucoup besoin d'attention, d'amour, et donc j'avais vraiment très tôt remarqué que quand j'étais sur scène et qu'on me regardait, je me sentais aimée en fait. J'avais l'impression d'avoir une place, j'avais l'impression en fait d'avoir une identité. Et donc pendant longtemps, j'ai fait une sorte de transfert. Pour moi, être chanteuse, c'était ma seule identité quoi. J'étais chanteuse, musicienne. Donc je pense qu'au début de mon parcours, en tout cas, je ressentais un vrai besoin d'essayer de combler un vide en étant sur scène, en créant, un besoin d'être aimée. Et puis bah voilà, ça a été un long chemin en fait de déconstruire tout ça.
Oui, donc tu as su très tôt que tu voulais faire de la musique ton métier.
Oui, j'ai su en tout cas que je voulais faire de la musique, mais je pense que c'était pas forcément pour les bonnes raisons, parce que je voulais surtout recevoir en fait. J'avais surtout besoin qu'on me donne, donc je faisais de la musique, peut-être dans l'attente aussi de, comme je disais, trouver une certaine place. Et donc du coup, même si évidemment j'aimais la musique, j'aimais créer, je pense qu'il a fallu que je déconstruise justement tout ça et que je retrouve cette envie de donner, de partager et pas juste de recevoir.
Tu as pris des cours de chant, tu as fait un master en chant jazz. Est-ce qu'il y a des exercices de chant qui t'ont aidé ou que tu as apprécié, que tu voudrais nous partager?
Il y a plusieurs choses, oui, dans mon parcours, en tout cas au conservatoire, même s'il a été assez complexe, assez compliqué. Mais il y a en tout cas des exercices que je trouve super chouettes, que ce soit du jazz ou pas d'ailleurs. C'est qu'on me donnait cet exercice de reproduire exactement, en fait, des chansons que j'aimais. Et je me souviens que moi, j'avais reproduit, par exemple, In a Sentimental Mood de Sarah Vaughan. Et il fallait vraiment reproduire, en fait, à l'identique. Donc il fallait vraiment que ma voix commence au même moment qu'elle, que le souffle soit au même moment, quand il y a des crescendo, faire les crescendo, quand il y avait faisait des silences. Et en fait, ça m'a poussé vraiment à avoir une oreille beaucoup plus précise, en fait. En un coup, j'étais plus juste en train d'écouter une chanson. J'essayais vraiment d'entendre plein de choses. Et je pense qu'au début, en tout cas, du parcours artistique, on a besoin aussi un petit peu de reproduire. C'est normal de s'inspirer. Et moi, ça m'a énormément aidé, en fait, d'essayer d'aller plus en profondeur chez les artistes que j'aimais et d'écouter beaucoup plus leur voix, leur fin de phrase, leur subtilité. Ça m'a beaucoup aidé. Et un autre exercice qui m'a énormément aidé, c'était de me concentrer sur les basses, sur les mouvements de basses. Que souvent, moi, j'écoutais le chant en premier et je me posais pas vraiment la question de qu'est-ce qui se passait au niveau des instruments. Et la basse, c'est vraiment la fondation de tout. Et je me rends compte que c'était pas si évident que ça de chanter la ligne de basse, en fait. Très souvent, je disais oui, je comprends, je vois où est la basse. Mais en fait, pas du tout. Donc, tous ces exercices, en fait, qui consistent à aller dans le détail de la musique, à vraiment essayer de perfectionner son oreille et d'identifier vraiment chaque élément. Au plus on a les éléments, au plus on peut aussi rebondir dessus en tant que chanteur ou même en tant que musicien, quoi.
Oui, puisque la basse, c'est souvent et à la fois un repère, et puis après, ça peut t'aider toi, quand tu crées, quand tu composes, à harmoniser, à entendre d'autres choses.
En fait, je pense au plus notre oreille est développée, au plus on a de la liberté, parce qu'on entend plein de choses, plein de finesse, plein de subtilité. Et moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de soucis avec ce cours qu'on appelait, en tout cas au conservatoire, j'étais en anglais, ear training, et donc j'avais beaucoup de mal à vraiment identifier les sons, et donc ça m'a énormément aidé de les reproduire, que ce soit vocalement, que ce soit aussi au piano, rejouer les lignes de basse, entendre les mouvements, tout ça, ça m'a, et puis même au-delà de ça, décomposer les accords, enfin voilà, tout ce qui permet de développer en fait l'oreille.
Oui, et est-ce qu'il y a d'autres exercices? Tu m'as dit aussi, pas forcément des exercices issus du jazz.
J'ai beaucoup d'exercices. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est tout ce qui est autour du diaphragme, évidemment, en tant que chanteur. Oui. Apprendre à détendre le diaphragme. Alors moi, j'ai ma prof de chant qui m'avait donné quelque chose d'assez chouette. C'est une sorte de tuyau en fait, en plastique, assez rond, comme un peu plus large qu'une paille, et vraiment apprendre à souffler dans une paille avec un verre d'eau à moitié rempli, et essayer d'avoir une sorte de fluidité dans le mouvement des bulles en fait, pour pouvoir vraiment relâcher le diaphragme et travailler son support, travailler son maintien de notes. Et à la fois, on peut souffler fort ou plus doucement, mais c'est vraiment maintenir en fait ce mouvement-là. Donc tout ce qui touche à la respiration, au contrôle de son souffle, ça c'est des exercices qui m'ont aidé, donc souffler dans une paille avec un verre d'eau. Autre chose aussi qui m'a pas mal aidé, c'est chanter devant une flamme de bougie. Bon, évidemment faut pas se brûler hein, mais on la met proche de nous en fait et à une certaine distance, et quand on chante il faut que la flamme ne vibre pas en fait. Ça permet de contrôler son souffle, parce que moi quand je chantais je mettais énormément d'air, et le fait de mettre autant d'air, ça m'empêchait d'atteindre beaucoup de notes avec de la puissance, du volume. Et donc pour travailler mon souffle, pour travailler mon air, ça a été vraiment pas mal d'exercices qui m'ont aidé à ce niveau là
Oui, la flamme, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient ce problème-là, donc d'abord je leur faisais prendre conscience en parlant, et après en chantant, je trouve que c'est un excellent exercice, il est moins connu que celui du verre d'eau. Et il est vraiment très bien, mais difficile.
Tout ce qui touche aussi au diaphragme, donc le diaphragme, c'est vraiment au niveau des côtes, et permettre de, par exemple, mettre des ceintures ou mettre parfois même des élastiques autour de nos côtes pour vraiment sentir l'ouverture de la cage thoracique et la fermeture, et arriver vraiment à se concentrer sur ce mouvement-là pour contrôler un maximum son souffle.
Pour les côtes, ça aide très bien à en prendre conscience, et puis aussi arriver à gagner en élasticité et à repousser la ceinture ou le foulard. Je ne sais pas si tu le travaillais comme ça aussi, ouais. En repoussant.
Oui, ouais, c'est ça, exactement.
Est-ce que tu as remarqué que tu avais gagné en ouverture costale et le tour de taille était peut-être un petit peu moins fin, mais que tu avais vraiment gagné en souplesse et en ouverture?
En fait, moi, j'ai vraiment eu une prof qui a changé ma vie. En fait, au début de mon parcours au conservatoire, je chantais avec énormément d'air. Et donc, du coup, à chaque fois que j'avais des concerts, j'avais plus de voix, en fait. Je me cassais la voix. Et elle m'a dit, écoute, il faut vraiment qu'on travaille ce souffle. Et moi, je me rappelle m'être dit, j'étais super réticente. Je me disais, mais non, c'est mon son, c'est mon identité. Je vais perdre complètement mon son. Et en fait, elle m'a initiée à la CVT. C'est la Complete Vocal Technique. Vocal Technique complète. Et c'est, pour moi, c'est une mine d'or, en fait. Vraiment, ça a changé mon approche de la musique. J'ai compris en fait mon instrument qui était ma voix, j'ai vraiment appris à travailler ma voix différemment. Et donc j'invite vraiment les personnes qui ne connaissent pas ça et qui ne sont pas familières avec la CVT à se renseigner, et il y a tous les principes fondamentaux de base, mais aussi beaucoup plus dans le détail, toutes les techniques vocales, c'est super riche, il y a des vidéos sur le net, il y a aussi un livre qui est super enrichissant. Et donc pour moi en fait c'est vraiment en m'initiant à la CVT que j'ai découvert vraiment mon instrument, et qu'en fait c'était un vrai instrument quoi, c'était pas juste je chante et puis voilà ce qui sort quoi. When you're feeling low, when you're feeling down, 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 when you're feeling mad, when you're feeling sad, 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 when you're feeling slow, and you're going low, 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 when you hear the sound, don't you feel the flow? Sugar, open up your eyes when the sun comes up, don't give up the
D'autres exercices que tu fais?
Écoute, aujourd'hui, il n'y a pas spécialement d'exercices en plus que je fais. Ce que je fais pas mal, moi, c'est que je suis très inspirée par mes racines africaines, mon métissage. Et donc, j'aime énormément, en tant que chanteuse, écouter des musiques du monde, que ce soit même des musiques au-delà des musiques africanisantes, aussi des musiques indiennes, des musiques qui viennent d'Asie. Et tous les exercices qu'il faut... Toutes ces choses-là, en fait, c'est pour moi des super échauffements vocaux. C'est hyper présent dans ma musique aussi. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé en fait pendant mes voyages au Cameroun et puis mes voyages aussi en Afrique et puis le fait que je joue d'un instrument aussi traditionnel d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle la kora. Donc tout ça c'est des exercices qui m'aident. Après évidemment t'as tout ce qui consiste à réveiller le diaphragme, donc tous les... tout ça, tu peux faire ça avec des notes, travailler les intervalles, et puis voilà, moi c'est globalement, j'ai pas vraiment maintenant d'exercices que je pratique en boucle, j'ai fait tellement d'années de conservatoire à travailler tout ça qu'aujourd'hui je travaille plutôt toujours ma curiosité en fait en tant qu'artiste et écouter plein de styles et de sons différents. Et je pense qu'il y a tellement d'artistes qui ont des techniques vocales hyper enrichissantes quand on cherche dans les musiques du monde, donc pour moi c'est vraiment des choses que j'invite les gens à faire s'ils veulent trouver encore plus leur patte.
Moi, ce week-end, j'ai vu Ablaï Sissoko et Laila Martial aussi avec les Aka, et c'est vrai que toutes les techniques qu'ils font, de yodel avec le larynx, c'est tellement différent de ce qu'on entend ici, et c'est très très enrichissant. Et c'est difficile à reproduire, surtout si on a travaillé son passage.
Écoute, pour moi, c'est venu hyper naturellement. C'est très bizarre, en fait. Peut-être mes origines africaines. Ouais. Mais en tout cas, je me suis jamais posé la question. C'est juste venu, en fait. Vraiment.
Et le long de ton cursus musical assez complexe, comme tu disais, ou alors de ton parcours d'artiste, est-ce qu'il y a eu une approche ou des phrases qui t'ont marqué de façon positive ou négative et qui ont généré quelque chose en toi?
Alors moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué pendant mon parcours. Deux phrases, une positive et une négative. Donc je commence par laquelle?
Comme tu veux.
Alors, je pense la positive. J'étais en première ou en deuxième année de conservatoire, donc en Belgique. J'habite en Belgique. Le conservatoire, donc c'est les études vraiment supérieures. Je sais que en France, ça correspond en fait chez nous à l'académie. Mais donc moi, j'ai eu vraiment un parcours au conservatoire supérieur assez compliqué. J'ai doublé. On m'a dit que j'avais pas ma place, que j'avais pas le niveau. Mais je me rends compte aussi que voilà, j'ai eu des profs quand même qui m'ont appris plein de choses, dont ce professeur justement d'ear training qui m'accompagnait beaucoup. Vu mes difficultés justement à entendre, tout était un peu flou. Et je me rappelle qu'on parlait beaucoup du bien bebop. Donc le bebop, c'est un style de jazz qui est très très rapide. Si les gens connaissent Charlie Parker par exemple ou Dizzy Gillespie, c'est vraiment beaucoup beaucoup de notes et c'est souvent joué par des instrumentistes, hein. Et moi, j'aimais pas du tout ce style-là. Je trouvais que c'était, ça allait dans tous les sens. J'avais l'impression que c'était une cacophonie et ça m'embêtait en fait de devoir autant le travailler et de devoir reproduire les solos à la voix, etc. Et un jour, j'étais en cours avec ce prof et on était à deux en cours, voilà, d'harmonie et je m'exaspère et je lui dis mais moi, j'aime pas le bebop. Je trouve que ça sert à rien. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit tu ne peux pas aimer ce que tu ne comprends pas. Et j'ai trouvé ça tellement juste. Il m'a dit ce que tu n'aimes pas en fait dans le bebop, c'est que ça challenge ta vision de la musique. Qu'il y a des tensions, il y a des notes que tu ne comprends pas. Et donc comme tu ne comprends pas, tu n'aimes pas. Mais si t'essayes en fait de voir là un challenge, une vraie rencontre, essayer de sortir de ta zone de confort, de changer le statu quo et de vraiment t'intéresser à ça, tu vas te rendre compte que en fait ta vision va changer et en comprenant en fait tu vas aimer. Et moi j'ai vraiment appliqué ce qu'il m'a dit à ma vie en fait. Je me rends compte que souvent ce que je pense ne pas aimer, c'est ce que je ne comprends pas. Et ça peut être dans le rapport avec les autres aussi, d'un point de vue humain. Pour aimer l'autre, il faut aussi le comprendre et pour ça il faut essayer de se mettre à sa place et d'ouvrir son esprit et de comprendre d'où vient la personne et de quel point elle parle. Et donc c'est aussi une métaphore artistique. Donc aujourd'hui j'essaye vraiment d'ouvrir mon oreille et à chaque fois qu'il y a des choses que je n'aime pas ou en tout cas que je pense ne pas aimer, je m'y intéresse toujours. Après je peux comprendre et dire voilà ça me touche pas, mais une fois que tu comprends, tu arrives aussi à comprendre la beauté qu'il y a derrière chaque son et puis d'un point de vue plus général, chaque vie. Et pour répondre à ta deuxième question du coup, qui était négatif, moi j'ai été très très rejetée pendant mon parcours artistique. Donc j'ai fait deux examens d'entrée ailleurs que dans mon conservatoire. On m'a dit, je me souviens de ce professeur qui a levé la main vers le ciel et qui m'a dit nous on est là, et puis il a baissé plus bas, il m'a dit toi t'es là. J'ai eu des examens d'entrée, des auditions, on m'a coupé en plein milieu en fait. On m'a dit non mais c'est bon finalement, tu peux rentrer chez toi. Et donc j'ai été fort rejetée et j'ai été aussi fort moquée parce que justement je disais j'avais un grand problème à entendre les notes, à percevoir les sons. J'avais 17 ans et moi je voulais faire j'aimais la musique énormément, j'aimais le jazz, mais j'avais pas toutes les clés, en fait.
Oui, t'avais pas des parents qui avaient écouté que du jazz ou qui étaient musiciens de jazz, donc j'ai eu à peu près la même chose en chant lyrique.
Ah oui? Ok. Mais voilà, c'est ça. Moi, j'avais un peu un parcours classique, un peu académique. Je connaissais un petit peu des choses, mais en un coup, on me demande d'entendre des quintes, des septièmes, et enfin bref, j'entendais rien, quoi. Je comprenais pas du tout. Et à la fin d'un cours de piano, j'avais, je pense, 20 ans, et je parle à mon professeur et je lui dis, je rêve d'aller un jour aux États-Unis jouer dans des bars, dans des petites scènes ouvertes qu'on appelle les open mic. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit qui m'a marqué énormément. Il m'a dit, toi, on va aux États-Unis, on frappe dans un arbre et on a 10 comme toi qui tombent.
Ah, c'est horrible.
C'était très violent. Et en même temps, ça m'a fait un électrochoc, en fait. Parce que je me suis dit, mais moi, je veux pas de ça, en fait. Je veux plus jamais entendre ça, en fait. Je veux plus jamais que les gens me voient comme une fille qui a un afro, qui chante de la soul, entre guillemets. Parce que bon, évidemment, c'est pas vraiment ça que je fais. Mais au début de mon parcours, je faisais du jazz, j'avais un afro. Et voilà, en fait, pour beaucoup, j'étais une parmi tant d'autres. Et donc, je me suis dit, voilà, si ça me fait si mal, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai aussi. Et j'ai fait de cette difficulté une force. Et je me suis cherchée. J'ai demandé si un signe à la vie. Voilà, je pense aussi qu'on est des énergies et que c'est important parfois aussi de se reconnecter en soi. Puis en fait, cet électrochoc m'a permis de me poser vraiment les bonnes questions, de me dire c'est quoi ma voix et pourquoi je chante, pourquoi je fais de la musique, et commencer à déconstruire en fait et me dire mais je veux apprendre à m'aimer, je veux faire de la musique pour donner et pas pour constamment combler un manque d'amour propre. Et puis aussi trouver mon son, trouver mon identité. Voilà, ça a été un long processus qui est passé par ma reconnexion à mes racines africaines et puis ma rencontre avec mon instrument qui est la kora. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de positif dans mon parcours et beaucoup de gratitude, mais c'est sûr que le parcours académique, parfois, il peut briser. Et j'en ai vu beaucoup, hein, des jeunes élèves avec moi qui ont arrêté. Il y en a même, sans vouloir faire le mélodrame, mais qui ont été en hôpital psychiatrique, parce que c'est très difficile et qu'on met notre cœur sur la table, on met notre vie, quoi, quand on chante ou quand on crée en tant qu'artiste et quand on est jeune en plus. C'est tellement dur de se faire parfois rabrouer. Et moi, je me souviens très bien que quand on me faisait une critique sur ma voix, il n'y avait pas de différence entre ma voix et moi, quoi. Donc pour moi, quand on me disait que ma voix, ça allait pas, on me disait que moi, j'étais nulle, quoi.
Pendant que tu faisais ton master de chant, tu donnais également toi-même des cours. Tu en as donné aussi à ton prof de kora, avec qui tu as fait un échange. Qu'est-ce que tu faisais faire à tes élèves ?
Ah là là. Alors, moi, la première chose que je faisais faire à mes élèves, bon, déjà, je leur demandais c'était quoi leur objectif. Parce que, évidemment, il y a des gens qui veulent juste, chanter, mais qui n'ont pas vraiment le temps, en fait, de mettre en place des longues disciplines. Et donc, j'essayais, en fait, de leur parler de l'importance de la répétition. Et donc, de consacrer, même si c'est que 5 minutes par jour, mais de les faire, en fait. Et le plus difficile, souvent, c'est de s'y mettre. Une fois qu'on y est, les 5 minutes, elles passent très vite. Et donc, je faisais vraiment des petits exercices, des petits blocs de 5 minutes, ou 10 minutes, ou plus. plus pour vraiment que les élèves mettent en place une discipline, en fait, une vraie routine. La chose que j'ai remarquée en général, qui est la plus problématique, entre guillemets, c'était vraiment le support, c'était le maintien du souffle, c'était la position, en fait. Et donc, ça commençait par là. Tous les exercices commençaient par là. Les premiers exercices dont je t'ai parlé, qui consistent à activer le diaphragme, à activer le support. Et puis, une grande conscience du corps. J'invitais vraiment les élèves à mettre leurs mains sur leur ventre et puis sur leur sternum. Donc vraiment, qui maintient les côtes. Et de vraiment faire cet exercice de, comme quand on tousse, en fait, quand on fait et de vraiment sentir le ventre qui se contracte vers l'intérieur et le sternum qui s'ouvre, en fait. Donc vraiment, ce mouvement de support, commencer à l'avoir. Ensuite, une fois qu'on l'avait, le faire en staccato. Ah, 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 ah. Vraiment, apprendre à avoir un son qui partait du bas, en fait, et plus du haut, plus de la gorge. Ensuite, évidemment, il y avait les brrr, maintenir ces mouvements-là. Tout ce qui activait les supports, ça, je mettais vraiment en place, parce que pour moi, c'est la clé, vraiment, pour avoir une voix saine, c'est que le son part du bas. Ensuite, il y avait des exercices de respiration. Apprendre à avoir des respirations profondes, vraiment relâcher le ventre, et faire en sorte que l'air vienne du ventre, du bas, et pas du haut, évidemment, pour éviter les respirations courtes, et puis pour dégager la nuque, quoi, dégager toutes les tensions. Et pour ça, je faisais un exercice qui consiste à expirer sur le tss, vraiment le plus longtemps possible, essayer de se chronométrer et de laisser l'air et de sentir le mouvement naturel, en fait, quand le son et quand on vide complètement son air qui revient au niveau du ventre. Et donc tout ça avec une sorte de timer, en fait, de chronomètre, où vraiment ils allaient à la fois s'entraîner à faire des très longues expirations et puis des plus courtes, mais de garder ce même mouvement. Donc tout commençait par vraiment cette base qui est pour moi la respiration et le soutien de la voix, et pour moi tout commence de là.
Oui, ce que t'as dit, c'est des exercices qui sont excellents. Et moi aussi, alors, je sais faire soit en très court aussi pour travailler plus sur la fermeture des côtes, ou soit les chronométrer et on notait dans le cahier toutes les semaines les durées pour voir la progression du souffle. C'est assez motivant quand on voit d'où on part et où on arrive.
Oui, et puis je pense aussi que c'est tellement important. Enfin, en tout cas, quand je donnais des cours, quand je demandais aux élèves, il y en avait beaucoup, quand je disais « Pour toi, la voix, elle vient d'où ?» Ils me montraient les cordes vocales, ils me montraient la gorge. Et c'est vraiment important de conscientiser que le son, il part du vent, mais il part même plus bas. Encore pour moi, il part vraiment des pieds, il part vraiment de son ancrage. Et donc, au plus on va toucher son corps pendant qu'on fait ses exercices, en plus il y a quelque chose de très thérapeutique, je trouve, dans le fait de se voir, de conscientiser sa respiration, de conscientiser aussi tous les mouvements que le corps met en place pour chanter, en fait. Et le fait de se toucher, de se regarder dans le miroir aussi, j'invitais beaucoup les élèves à faire ça. Au début, c'est pas facile pour certains, hein.
Ils pensent que c'est narcissique, alors que pas du tout.
Non, pas du tout. Et puis c'est tellement important de se connecter à son corps. Notre voix, pour moi, je trouve qu'on devrait tous chanter. Voilà, on devrait tous chanter. C'est pas que ce soit une profession ou pas, parce que la voix vient de nous. C'est tellement libérateur. Et donc j'ai eu beaucoup d'élèves qui exprimaient tellement de choses et qui lâchaient beaucoup de choses pendant les cours. Ben, j'imagine toi qui es coach, tu dois voir ça aussi beaucoup, hein. Mmh. Qu'il y a la frontière entre le chant et puis l'âme et le profond. Elle est toute fine, quoi.
Oui.
Il y a ceux dont on sait les histoires, ceux qui transmettent ou ceux qui taisent.
The ones we've loved and those we'll never know. I wonder what they've been through. Their dream came true.
D'une voix, je garde le souvenir.
Deep inside,
I feel the memory. Alors je tends les mains et j'adresse ces mots à tous ceux qui m'ont fait, que je porte sous ma peau. Que nos voix les réveillent et que nos cœurs les reflètent, puisqu'ils nous guident et nous guettent de là-haut. Dans leur tas, leurs noms et leurs failles, porter bien plus que ce qu'on laisse paraître, de la richesse, de maudits ou de gestes.
Let us know what you've seen, hold us when we need you. We'll cherish the day, yeah, we all need to you.
Dans mon cœur, je garde le souvenir.
Deep inside, I feel the memory.
Alors je tends les mains et j'adresse ces mots à tous ceux qui m'ont fait. porte sous ma peau. Que nos voix les réveillent et que nos cœurs les reflètent, puisqu'ils nous guident et nous guettent de là-haut. Alors j'attends les mains, oui j'accueille ce cadeau d'être là, d'être là, porteur de votre écho. Que nos voix vous réveillent et que nos cœurs vous reflètent, vous qui nous guidez, nous guettez.
Parler de ta reconnexion à tes racines africaines, j'ai interviewé récemment Emmanuel Pidjob, qui est un chanteur d'origine camerounaise né prince dans la tribu Bassa. Il m'a raconté qu'il utilisait sur lui-même et également lors des coachings ou des masterclass qu'il donne, des techniques d'ancrage, de reliance à l'univers ainsi que des rituels qui viennent de sa tribu, de ses ancêtres. Est-ce que tu puises également dans tes racines des exercices, des choses au quotidien?
Ah ben pour moi, je le dis toujours, pour moi il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est tellement tellement précieux, nos racines, nos ancêtres. Et moi, évidemment, ils sont toujours avec moi, mais je parle de mes ancêtres africains comme de mes ancêtres européens. Je me dis combien de vies, combien de batailles, combien d'êtres, en fait, ont dû être là avant moi pour que je sois là aujourd'hui. Et pour moi, rien que le fait que je sois chanteuse, que je puisse faire le métier que j'aime, mais quelle chance, parce que c'est vraiment une chance. Je sais qu'à l'époque, même de mes grands-parents, c'était pas envisageable. Mes grands-parents sont nés dans mon village à l'ouest du Cameroun, qu'on appelle Bangoua. Ils sont nés dans les champs, mon grand-père était orphelin, et il y a eu un grand assassinat dans ma famille et il a perdu quasiment toute sa famille. Et en fait, c'est assez merveilleux de me dire qu'aujourd'hui on peut être là, on peut discuter, toi et moi, et on peut partager plein de choses. Et c'est tellement important et précieux pour moi de rendre hommage et de parler des gens qui nous ont précédés, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on a autant de liberté, parce qu'on a quand même cette chance, en tout cas en Occident, d'avoir accès à tellement de choses et d'avoir, de pouvoir, oui, rêver et réaliser nos rêves. Et ça, je trouve ça assez beau. Donc bien sûr, mes racines et mon histoire, et voilà, elle est intrinsèquement liée à qui je suis et à ce que je crée aussi en tant qu'artiste.
Oui, tu as beaucoup voyagé pour te découvrir et aussi pour te faire découvrir en tant qu'artiste. Tu as fait un grand nombre de scènes ouvertes, d'open mind dans des pubs londoniens et à Los Angeles. Qu'as-tu appris sur toi en tant que personne et en tant que chanteuse en faisant toutes ces scènes ouvertes ?
Waouh. Ben déjà, j'ai appris à m'aimer. Et juste ça, c'est pas mal.
Oui.
Parce que ça met du temps. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, surtout, je parle quand je suis partie aux États-Unis. J'avais 23 ans et j'ai tout quitté. Voilà, j'ai arrêté de donner des cours. Je venais de finir mes études. J'ai quitté mes proches, ma zone de confort, pour me lancer dans l'inconnu complet avec ma cora, mon instrument, sur le dos. Et je me rappelle, en arrivant à l'aéroport, j'ai eu une crise d'angoisse à Paris Charles de Gaulle, parce que quand on scanne, en fait, son ticket, les portes se referment derrière nous, on rentre dans un tube et... Enfin, un tube. En tout cas, dans ma tête, c'était un tube. C'est une sorte d'escalator qui monte, hein, pour ceux qui prennent souvent l'aéroport à Paris. Et en fait, moi, je connaissais pas cet aéroport et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait derrière, en fait. Donc j'avais vraiment l'impression que j'allais être engouffrée dans un truc et j'ai fait une crise d'angoisse de, je pense, une demi-heure, 40 minutes. J'ai jamais vécu ça, en fait. J'arrivais plus à bouger, je pleurais, j'étais tétanisée. Voilà, à un moment donné, c'est un peu comme sauter dans le vide, quoi. À un moment donné, il faut se lancer, il faut plus pas regarder en arrière. Et voilà, j'ai pris ma respiration, toujours l'importance de se connecter à son corps. J'ai scanné mon ticket, je suis passée et j'ai senti une sorte de poids, en fait, qui est sorti de mes épaules. Et en un coup, j'ai l'impression d'avoir respiré pour la première fois.
Du lâcher prise, peut-être ?
une sorte de libération, en fait. Je me suis libérée de toutes mes peurs. Et peut-être, oui, de toutes ces peurs qui venaient de mes profs qui m'ont dit que j'étais pas capable, des projets que j'ai réalisés qui n'ont pas fonctionné comme je l'espérais. Et ça y est, je suis arrivée sur cette première scène ouverte à Los Angeles. Et j'ai pensé à ce professeur de piano qui m'avait dit, toi, on frappe dans un arbre, il y en a 10 comme toi qui tombent. Et je suis montée sur cette scène et ce qui est assez magnifique dans ces scènes ouvertes, c'est que les gens sont là, ils boivent un verre et ils sont là après le boulot. Ou... enfin, voilà, ils sont pas là pour t'écouter. Et puis, il y a eu un silence, en fait, quand j'ai commencé à chanter. Les gens m'ont écouté, les gens chantaient avec moi et j'ai compris en fait que non, il n'y avait pas 10 personnes comme moi. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui est double en fait, on est tous uniques. Et en faisant ça, pour moi, c'était une libération parce que j'ai été au-delà de mes peurs. Et je pense que pour la première fois de ma vie, vraiment, j'ai été fière de moi, quoi. Et je me suis dit, waouh, je l'ai fait. Et pendant un an, j'ai écumé tous les bars, tous les cafés-concerts, j'ai toqué à toutes les portes, j'ai travaillé avec énormément de producteurs. J'ai appris à être humble aussi. J'ai appris à me dire que c'était ok de recommencer encore et encore. C'était ok de chanter devant des gens qui n'étaient pas forcément là pour toi. C'était ok parce que à partir du moment où tu donnes et où tu partages, pour moi, ma vie a du sens en fait. Et en faisant tout ça, en étant si loin de tout, en me rencontrant mes peurs, ma solitude, voilà, je me suis dit, je me suis mise en priorité et j'ai pris confiance en moi. Et je pense que pour apprendre à s'aimer, il faut se challenger. Il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'après, quand il y a des moments où on est plus difficile envers nous-mêmes, où on se dit je vais pas y arriver, on peut repenser à tous ces moments-là et dire mais en fait j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Et voilà, enfin je repense à un truc pendant que je te parle, mais l'autre jour, ma maman me parlait, voilà, du fait que on a un proche qui doit se faire des piqûres dans le ventre tous les jours pendant quelques jours, et elle dit, ah, moi, je pourrais jamais, j'aurais jamais pu. Et je lui dis, mais maman, t'as accouché, t'as accouché, t'as eu un enfant, enfin, concrètement, tu penses que c'est plus difficile de se faire des piqûres dans le ventre pendant 5 jours ou d'accoucher? Et puis, elle m'a dit, ah, mais c'est vrai, en fait. Ah, mais oui, mais j'en serais capable. Et je pense que parfois, on oublie tout ce qu'on a déjà pu faire et toutes les difficultés qu'on a déjà pu traverser. Et quand on y repense, on peut se dire, waouh, on est vraiment des super-héros.
Et oui, souvent dans les exercices de développement personnel, ils conseillent de marquer justement tout ce qu'on a réalisé et ce dont on est fier, ouais, pour pouvoir se donner du courage pour avancer.
Et puis dire que c'est ok en fait, c'est ok aussi parfois de se dire je suis pas prête, voilà, je me laisse du temps. C'est ok aussi parfois de changer d'avis, de faire demi-tour et de revenir plus tard. En fait, c'est vraiment le chemin d'une vie et voilà, je pense qu'il faut s'écouter et puis se challenger, mais il faut aussi sentir quand ça devient trop loin, voilà.
Oui, et pour ta musique, tu étais à la recherche d'un habillage sonore authentique. Ce qu'on te proposait ressemblait trop au son des autres chanteuses et ce n'était pas toi. Tu souhaitais proposer un voyage musical à travers les continents avec beaucoup d'influence. Comment as-tu réussi à aboutir ton album, à faire comprendre ce que tu souhaitais entendre?
En me trouvant, c'est vraiment parti de là. Parce que je me souviens que pendant longtemps, je pensais que c'était les autres en fait qui allaient me sauver un petit peu, qui allaient trouver mon son, mon identité. Et donc j'ai fait beaucoup de sessions avec beaucoup de producteurs. Et puis justement aux États-Unis, j'ai été repérée par un énorme producteur qui travaille avec les plus grands artistes et en fait j'ai commencé à travailler avec lui et là je me disais, il y avait toujours quelque chose qui était pas juste en fait à l'intérieur de moi, je sentais que c'était pas tout à fait ça et on avait des sessions, après les sessions j'étais fatiguée, j'étais épuisée, mais tous mes proches me disaient écoute, tu travailles avec le producteur de Beyoncé, de Frank Ocean, là à un moment donné tu travailles avec l'un des meilleurs producteurs actuels, si là t'es pas contente, je veux dire à un moment donné c'est toi qui dois travailler sur toi. Et donc à un moment donné je me souviens, j'étais en session avec ce producteur et je me dis non mais en fait ce qu'il me faudrait c'est travailler avec le producteur de Liane Lavas. Et à ce moment-là il me dit demain il y a Liane Lavas qui arrive en studio, on va travailler un titre ensemble. Et pour moi c'était une synchronicité énorme. Je me suis dit ben voilà, elle est là ma réponse en fait. C'est pas le producteur qui va trouver mon son, c'est moi. Et donc en rentrant chez moi en Belgique, j'ai commencé à produire en fait. J'ai commencé à prendre ma carte son, travailler des chansons, essayer des choses. J'avais plein d'harmonies en tête, de vibes africanisantes, j'avais plein d'inspirations et en fait elles sont toutes venues et je les ai créées. Et mon son, je l'ai créé sans même réfléchir à il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. J'ai juste fait en donnant vie à ce que j'entends. Et je pense que pendant longtemps, j'étais frustrée parce que je pensais que j'étais pas capable. Je pensais qu'il fallait d'office que j'ai un producteur, qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi. Et en fait, bien sûr, c'est toujours bien d'être entouré et on va plus haut ensemble à plusieurs. Mais je pense qu'il y a énormément de questions d'abord auxquelles on doit répondre pour soi. Et c'est vrai que parfois, et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon parcours parce qu'à 17 ans, j'ai fait The Voice Belgique et j'ai eu un buzz en tout cas dans mon pays et j'ai été propulsée. On me disait voilà, on veut un album, on veut ceci, cela. Mais je pense que si on n'a pas répondu aux questions fondamentales de voilà, qu'est-ce que j'ai envie de partager et quel est mon son, bah on se retrouve vite amené à faire plein de choses dans plein de directions qui ne correspondent pas forcément. Donc je pense que c'est vraiment important avant de se lancer directement avec un album, etc., de vraiment faire des tests, essayer des choses et sentir quand c'est juste. Et puis évidemment, après, la vie fait que la musique évolue avec nous. Mais je pense que déjà, c'est important de savoir vers où on veut aller en tant qu'artiste et qu'est-ce qui nous touche touche vraiment et puis de faire des tests, vraiment. Écrire, s'enregistrer, essayer encore et encore, faire des sessions avec des gens, avec beaucoup de producteurs. En fait, il faut faire, il faut être dans le faire, je pense. L'action avant tout.
Comment prends-tu soin de ta voix? Comment entretiens-tu ta voix?
Alors moi, je suis une petite mamie, faut savoir. C'est-à-dire que je ne bois pas d'alcool. D'ailleurs, je ne bois rien du tout à part des tisanes et de l'eau.
Ouais, bon, mais pareil.
C'est vrai.
Oui.
On est deux mamies. Non, mais je rigole. Mais en vrai, oui, voilà. Moi, c'est... D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont chanteurs et chanteuses et qui fument aussi. Et moi, je ne sais pas comment ils font parce que j'arriverai pas. Donc, c'est vrai que l'hygiène de vie, pour moi, c'est important. Donc, évidemment, je fume pas non plus. Je fais attention à mon alimentation. Ça a semblé un peu rébarbatif, mais c'est vrai que je suis végétarienne, donc j'ai une alimentation qui a beaucoup de fruits, de légumes. Mais au-delà de ça, après, je pense que c'est toujours répondre au pourquoi. C'est-à-dire que moi, en fait, j'avais lu ça dans un livre un jour, on fonctionne par le moteur de douleur, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus douloureux pour moi? Est-ce que ce qui est plus douloureux pour moi, c'est de me priver, entre guillemets, de certaines choses, que voilà, je sais pas moi, d'avoir une hygiène de vie un peu plus pas exigeante, parce que pour moi, au final, c'est tellement devenu une routine que c'est pas, je me prive pas. Mais est-ce que c'est faire ça ou est-ce que c'est avoir une voix qui suit pas et ne pas pouvoir maintenir mes concerts? Et donc c'est pour ça que je parle du niveau d'inconfort et de peine. Pour moi, ça serait plus douloureux d'être moins performante. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai une hygiène de vie. Après, évidemment, moi j'avoue que j'ai pas beaucoup de mérite parce que toute la famille de ma maman est végétarienne, ma maman boit pas d'alcool, personne qui fume. Donc bon, voilà, j'ai déjà grandi avec tout ça.
Ouais, moi c'est pareil.
C'est vrai?
Ah oui, hormis qu'ils sont pas végétariens, mais ça boit pas, ça fume pas. Et pour le coup, j'ai été élevée aux tisanes, quoi.
Ben voilà, et j'avoue que, bon voilà, j'ai pas de grand mérite, parce que j'imagine que quand on aime un bon steak de viande, ça doit être difficile de changer. Mais d'ailleurs, je pense qu'il faut s'écouter, et je pense que, voilà, il faut sentir en fait les moments où notre voix est irritée. Et puis évidemment, moi je suis du genre à toujours avoir un petit châle, une petite écharpe autour de la gorge. Et puis tout ce qui consiste aussi à éviter, avant de chanter, les aliments très transformés, très sucrés, genre le chocolat. La blanc, typiquement, moi, ça m'irrite la voix directement, les chips, voilà, tout ça, quoi. Mais après, il faut s'écouter, à nouveau, hein. Moi, je connais des gens qui ont des voix de ouf, et qui fument et qui boivent, et ils ont des voix de malade, donc moi, je sais que je pourrais pas tenir, et aussi le sommeil, aussi, évidemment, le sommeil, le sport. Bon, voilà, hein, c'est un peu des choses, je pense, pour le quotidien, mais c'est vrai que je fais du sport plusieurs fois semaine.
Qu'est-ce que tu fais comme sport?
Alors, moi, depuis le confinement, je fais du sport à la maison. Donc, j'utilise une app qui s'appelle Trend Sweat Eat, que beaucoup doivent connaître s'ils suivent Sissi Mua, qui faisait des lives. Et ce que moi j'adore là, c'est que c'est 30-40 minutes HIIT, du renforcement musculaire, en fait voilà, du poids du corps, des petites haltères, et je fais ça le matin, bon parce que moi j'ai du temps le matin, mais après on peut caler ça, je pense 30-40 minutes, on peut tous les caler quelques fois dans la semaine, et en fait moi avant j'allais à la salle, mais c'est vrai que finalement, entre guillemets, je gagne beaucoup plus de temps que d'aller à la salle, changer, faire tout son entraînement, enfin bref voilà. Donc c'est vrai que j'apprends en fait à prendre soin de mon corps, de mon esprit aussi, pour moi les deux sont liés. Et puis évidemment, au-delà de ça, j'écris beaucoup. J'écris, alors c'est pas vraiment un carnet intime, mais le matin j'écris et le soir j'écris aussi. Trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, hein, une sorte de journal de la gratitude. Le soir avant de me coucher, j'écris trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Ça peut être aussi simple qu'un lever de soleil ou une personne qui m'a souri dans la rue ou le câlin de ma petite sœur. Enfin voilà, en tout cas, finir ma journée avec de la gratitude. Et puis le matin, j'écris aussi un petit peu ce que je ressens, ce que je vis. Et essayer un maximum aussi d'avoir des moments de calme dans la journée. Ça peut être 2-3 minutes, hein, mais essayer de se reconcentrer sur sa respiration. S'il y en a qui pratiquent la méditation, ils connaissent ça aussi. Et puis, au-delà de ça, lire. J'aime beaucoup lire quelques pages de choses qui m'inspirent, de livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, écouter des podcasts quand je suis en voiture. Donc, tout ce qui me nourrit, en fait, globalement, intérieurement et aussi extérieurement.
Moi je suis pareil, j'écris mes gratitudes le matin, le soir, et je trouve que c'est vraiment super. Moi je prends les cahiers de Lilou Massé, avant je le faisais toute seule, et je sais pas si tu la connais, Lilou Massé.
Non.
C'est une youtubeuse, intervieweuse, qui sort tous les ans des cahiers avec des thématiques en lien avec la spiritualité et le développement personnel. Elle fait intervenir soit des chamans, soit des personnes qui font de l'écriture intuitive, et en même temps il y a toujours tous les matins ses inspirations, ses intuitions, ses intentions, ses gratitudes, et des petits exercices trouvés un peu partout dans le monde.
Ouais. Ouais, je trouve que c'est super. Et voilà, après, j'ai conscience que c'est vraiment une sorte de routine à mettre en place. Hein. Et c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Et je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est me laisser 21 jours. On dit qu'il faut 21 jours pour s'habituer à une nouvelle routine. Et moi, ça a vraiment commencé progressivement. D'abord, c'était OK, le matin, j'écris quelques lignes. Et puis après, une fois que j'ai commencé à mettre ça en place et que c'était routinier, c'était je me lève le matin, au lieu de prendre mon téléphone, je lis un chapitre ou quelques pages d'un livre qui m'inspire. Et puis, en fait, ça a été vraiment progressivement. Parce que j'ai aussi conscience que voilà, il y a plein de gens qui bossent tôt le matin, qui ont des enfants, qui ont des vies chargées. Si on leur dit voilà, le matin, tu commences à faire ci, tu commences à faire ça, ça peut paraître tellement énorme en fait. Et je pense que déjà, voilà, peut-être si jamais le matin les gens n'ont pas beaucoup de temps, finir la journée avec cette routine-là plutôt que de la commencer directement le soir. Si on regarde la TV, la couper plus tôt, puis se donner une heure vraiment pour se poser, pour écrire, pour lire quelque chose qui nous touche, pour écouter quelque chose qui nous touche. Enfin voilà, essayer en tout cas de trouver une sorte de routine qui nous convient à nous en fonction de nos horaires et de nos emplois du temps, quoi.
Oui, complètement. Et depuis 2018, tu as accroché un tableau de visualisation au-dessus de ton lit. Tu as enlevé la photo de Nagui dans l'émission Taratata l'année dernière. Est-ce que tu veux bien nous parler de ta pratique de la visualisation pour les auditeurs qui n'utilisent pas les intentions, les visualisations, pour ceux que ça peut aider?
Oui, déjà, tout mon amour à Nagui, évidemment, je l'ai enlevé de mon tableau, mais il reste dans mon cœur. Donc voilà, moi je suis très sensible, c'est vrai, à la visualisation et aux affirmations et aux énergies. Donc je pense que le monde est un reflet de nous en fait, de nos pensées. Et je pense qu'on voit le monde voilà comme ce qu'on aimait en fait. Je pense que c'est vraiment une sorte d'énergie qui va dans les deux sens. Et moi j'ai vraiment senti en fait un énorme changement dans ma vie et dans les personnes que j'attirais aussi et dans mes relations, que ce soit personnelles ou mes relations aussi de travail, à partir du moment où j'ai changé mon énergie et j'ai changé ma façon d'être et d'être beaucoup plus dans l'amour, la gratitude, la reconnaissance et le service. Donc au-dessus de mon lit, à ce tableau de visualisation, avec ces mots déjà, gratitude, service, reconnaissance, amour. Voilà, je pense que c'est quelque chose vraiment, en tout cas moi, qui m'aide de me le rappeler tous les jours en fait. Tous les jours, il faut que je me rappelle d'essayer d'être un maximum dans l'amour et dans la bienveillance avec les autres et avec moi-même. Et puis la visualisation, ça consiste à mettre des images qui nous animent. Voilà, il y a des choses parfois qu'on voit et on sent au niveau du cœur qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et moi, ça m'aide en fait le soir et le matin en me levant de voir des images qui m'inspirent et que voilà, ça peut être une émission que j'ai envie de faire, ça peut être un objectif que j'ai envie de réaliser, mais ça peut aussi être juste une intention, un bien-être. Voilà, en fait, toutes des images qui nous nourrissent. Et je pense que c'est tellement, tellement important parce que on peut très vite être pris dans le piège, surtout si on écoute beaucoup les nouvelles, qu'on regarde beaucoup le journal parler, etc., ou qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut très vite être pris dans un truc de négativité énorme et plus voir le négatif que le positif. Évidemment, le négatif est là, mais vraiment, mais à partir du moment où on se concentre sur le positif, en fait, à un moment donné, c'est pas qu'on ne voit plus que ça, mais ça prend le pas, en fait. Et c'est vraiment... voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour être optimiste, etc., et positive. C'est pas que je suis tout le temps de bonne humeur, mais c'est comme si, à force de se concentrer sur le positif, c'est le positif qui prend le pas. Et rien que de me dire que, voilà, je suis là, je respire, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je peux marcher, je peux me lever, je peux manger. Enfin, en fait, c'est des choses peut-être qui semblent absurdes, mais le jour où on se casse la jambe, ou le jour où on n'a plus le goût, comme ça a été mon cas là ces derniers temps, plus le goût, plus l'odorat, mais on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on prend pour acquises en fait, tellement de choses qu'on oublie, alors que voilà, elles sont là en fait, et c'est une chance. I know that you see what is on my mind, kiss me now, kiss me now. You don't need to speak, I can read your signs. Touch me now, touch me now. Cause I already know how to love you. Oh, let me show you what we could do. I found my home, baby, take me to Zion.
place where we'll forever be free from fears, free from tears, a lovely feeling forever to be mine by your side. Ooh, so divine, 'cause I already know heaven's with you.
Tu as été élevé dans une famille où la spiritualité était importante, tu n'hésites pas à demander des signes de l'au-delà. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'un des messages en lien avec la musique que tu as reçu en rêve ?
Ben, il y a eu deux messages que j'ai reçus. Enfin, disons que, en tout cas, deux signes très 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 forts. Il y a eu ma rencontre avec la Cora, du coup, qui est arrivée à une période où je me posais beaucoup de questions justement sur la musique, c'était fait pour moi. Et puis, j'ai demandé un signe à Dieu, à l'univers, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, à une énergie supérieure. Et puis, j'ai commencé à faire ces visions où je me voyais en apesanteur avec une sorte de harpe. Voilà. Je me souviens, en fait, d'avoir quelque chose posé sur les genoux. Et je me souviens que j'étais bien. C'est, je sais pas comment expliquer, j'étais en harmonie, j'étais en paix. Et du coup, j'étais tellement, à force de faire ce rêve, j'ai cherché vraiment quel était cet instrument. Et j'arrivais pas, en fait, à le trouver. Je trouvais pas, je voyais des harpes, des images, mais c'était pas ça. Avec un ami, on a cherché, on a encore les discussions d'ailleurs où je lui envoie des messages en lui demandant, j'arrête pas de faire ce rêve, aide-moi, etc. Et que quelques temps plus tard, peut-être un mois plus tard, à Majorque, en Espagne, j'étais sur la grande place de Majorque, j'ai entendu le son de la cora. Et avant même de voir l'instrument, en fait, j'ai vraiment perdu mes mots, en fait. J'étais en train de parler à ma maman et puis j'ai plus su parler, en fait. C'est un son qui m'a cloué sur place. J'ai regardé partout autour de moi et j'ai dit, ça vient d'où ce son? Et j'ai vu cet homme avec cet instrument étrange et je l'ai pris en vidéo et j'ai dit, maman, je vais jouer de cet instrument. J'avais pas encore fait le lien entre cet instrument et mon rêve. Et ce qui était fou, c'est que je suis rentrée quelques jours plus tard en Belgique et je préparais un petit stage pour des enfants et je cherchais des images d'instruments, des dessins d'instruments de musique à imprimer pour leur présenter. Et j'avais, je sais pas que j'avais oublié cet instrument, mais voilà, là, j'étais concentrée sur ce stage que j'allais faire. Et la première image que je vois, le premier dessin, c'est le dessin de la cora. Au même moment, j'ai mon meilleur ami qui m'aidait à trouver l'instrument, à qui j'avais envoyé la vidéo il y a quelques temps, qui me dit c'est la cora. Et je reçois, j'ai l'image, j'ai le sous-texte et je vois la cora, harpe d'Afrique de l'Ouest. Là, je comprends en fait. La harpe que je vois dans mes rêves posée sur mes genoux, c'est la cora. Enfin, ça a changé ma vie, quoi. Et un deuxième signe que j'ai reçu et qui est pour moi encore plus fort, c'est quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de moments très difficiles où, voilà, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. J'étais vraiment au bout, vraiment au bout. Tu vois, le tréfonds du bout. Et puis je jouais dans ce petit bar, ce petit open mic tout minuscule sur Pico Boulevard pour ceux qui connaissent un peu Los Angeles. Et il y avait que moi et deux filles et puis un gars un peu morbourré dans un coin. Et je chante, mais voilà quoi, je retiens mes larmes, il n'y a pas de scène, donc je joue derrière une chaise, derrière une table, enfin j'en peux plus quoi. Et je me dis, mais tout ce travail, toutes ces années, tout ça pour encore être là à payer $5 pour chanter trois chansons, enfin j'étais vraiment au bout. Et puis il y a ces deux jeunes femmes qui sont venues vers moi et qui, je sais pas comment expliquer, en fait. Elles m'ont dit, écoute, on sent que tu vas pas bien, en fait. On sent ta détresse. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Et moi, j'étais là, je connais pas, je vous ai jamais vu. Et puis, en plus, moi, à cette époque, j'étais pas spécialement... Oui, je croyais en la spiritualité, mais j'allais pas prier comme ça, dans un bar, avec des gens que je connaissais pas, quoi. Et en fait, j'ai dit ok, tellement j'étais... Ouais, j'avais besoin d'aide, quoi. Et en fait, elles m'ont tenu la main, on s'est assises, et enfin, j'ai fondu en larmes, elles ont pleuré avec moi, elles m'ont serré dans les bras, et vraiment, leur amour m'a sauvée, en fait. Et avant de partir, il y en a une qui me dit, écoute, j'ai un livre pour toi et je sens que je dois te le donner. C'est un livre que je porte jamais avec moi. Mais là, j'ai senti aujourd'hui qu'il fallait que je prenne ce livre-là. Et moi, je comprends que c'est un livre qui lui est très précieux et je veux pas qu'elle me le donne, mais elle insiste, elle me dit, je dois te le donner. Et puis finalement, je dis ok. Elle me dit, je vais juste enlever les dessins et tous les écrits que j'ai mis dedans. Et puis au moment où elle l'ouvre, bah en fait, c'est un dessin de moi, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et toutes les trois, on se dit, mais it's me, it's you. Enfin, on s'exclame, quoi. Toutes les trois en même temps. Je sais pas comment expliquer. C'est un dessin, c'est moi, en fait. Et il était marqué, ce texte, dans ma plus grande peine, j'ai vu ta gloire et ça m'a émerveillée. En anglais, donc, in my deepest wound, I saw your glory and it astounded me. Et dans les yeux, il était écrit beloved, qui est la signification de mon prénom, Lubiana, qui veut dire bien-aimée, qui veut dire beloved en anglais. Ma maman me le disait tout le temps quand j'étais petite. Lubiana, ça veut dire beloved, ça veut dire bien-aimée, tu es ma bien-aimée. Je sais pas, ce dessin, en fait, pour moi, ça a été, voilà, c'est un dessin qu'elle avait fait il y a des semaines, qu'elle avait coupé au ciseau, qu'elle avait collé, et là, il était là, quoi. Et je sais pas comment dire. Enfin, pour moi, ça, c'était un signe pour me dire que tout va aller, quoi. Tout va bien se passer. Quand j'ai des moments difficiles, ce dessin, il est sur mon tableau de visualisation. Je le vois et je me dis, tout va bien aller. Donc, voilà, faut pas que je m'inquiète.
Oui. Et ce dessin, c'est le visuel de ton podcast Bi. Tu nous plonges dans la genèse de ton premier album. Personnellement, je me suis souvent retrouvée à travers toi. C'est un podcast que je recommande à tous les chanteurs qui nous écoutent. Il est vraiment d'une grande utilité et puis même pas forcément que pour les chanteurs. Mais je pense que les chanteurs, les artistes s'y retrouveront forcément beaucoup. Et c'est un podcast qui en même temps est très personnel. Et en parlant de toi, tu parles aussi du reste du monde. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment l'idée de ce podcast a-t-elle germé en toi ?
Mais en fait, c'est vrai que, voilà, ce dessin, en fait, il m'a tellement porté que je l'ai même représenté en photo, hein, mais sur ma pochette d'album. Et voilà, pour moi, j'ai reçu ce signe, mais je l'ai reçu pour le transmettre et pour faire quelque chose avec. Pas reçu ça juste pour moi, qu'on me dise, voilà, pour moi, c'était important, en fait, que je redonne ce que j'avais reçu. Et au moment du confinement, l'idée est venue de faire un podcast. Et au début, je me disais, ça a été une idée qui a été proposée par une personne de mon label qui m'a dit, tiens, t'as pas envie de faire un podcast, j'avais jamais fait de podcast. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à raconter? Quoi. Et en fait, c'est venu tout seul. J'ai raconté mon histoire, j'ai raconté mes 10 années de quête à suivre mon rêve d'être chanteuse, de vivre de ma musique. Et en fait, j'ai parlé de toutes mes peurs et de tout ce que j'ai déconstruit pendant ces 10 années parce que entre le moment où j'ai décidé de faire de la musique, vraiment mon métier, et le jour où j'ai pu sortir mon premier album, il s'est écoulé 10 ans. Et en fait, voilà, ce podcast, il retrace ça. En fait, il s'appelle Be Et. C'est vraiment la genèse de mon album qui s'appelle Beloved, qui veut dire bien aimé, mon prénom, mais aussi être amour. Et c'est vraiment une quête à travers soi, tous les challenges que j'ai rencontrés, les difficultés aussi évidemment liées au milieu académique, à mes professeurs, mais aussi ce besoin d'être validée, de trouver ma place, d'être aimée, toutes mes peurs, ma rencontre avec la solitude et puis ma peur aussi du temps qui passe, de me dire qu'il fallait absolument que je réussisse un certain âge, que je sois jeune, qu'il fallait que j'aie un certain niveau, voilà, le fait de se comparer aux autres, de se dire que les autres y arrivent et pas nous, que pourquoi un tel ça va plus vite, parfois la peur de l'abandon, du rejet, le sentiment d'injustice, enfin tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années à me rencontrer. Et bien sûr, tout est lié autour de la musique. C'est pour ça, comme tu dis, que je pense que beaucoup d'artistes, enfin voilà, je sais que beaucoup d'artistes écoutent mon podcast, mais ça parle en fait de thématiques, je pense, qu'on vit tous. Et puis oui. Et puis là maintenant, je viens tout juste de commencer la saison 2 qui s'appelle Be Love du coup, et qui est un voyage à travers les titres de mon album et puis surtout une reconnexion et un retour à l'amour. Et c'est vrai que en fait, j'ai écrit ce podcast en me disant bah voilà, qui est-ce que ça intéresserait. Et puis au final, j'ai été tellement touchée de voir les retours et à quel point ça aide d'autres personnes. Et je me dis, bah voilà, en fait, pour moi, ce dessin, il était notamment là pour ça, en fait. Il fallait que j'aide et que je partage à travers mon histoire. Parce que pour moi, on est tous liés les uns aux autres, on est tous connectés. Et ce que je donne à quelqu'un, et ben cette personne va aussi donner à une autre. En fait, au plus, on est dans le service, comme je dis.
Oui, la loi de l'abondance.
Oui, voilà, et au plus on donne, au plus on reçoit, et au plus on est sincère dans sa démarche, et au plus on le fait pour les bonnes raisons, je pense au plus on est véritablement heureux. Parce que moi, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué, c'est que pendant longtemps, j'ai poursuivi ce rêve en pensant qu'une fois que je l'aurais atteint, je serais heureuse. Je pensais qu'une fois que je serais connue, une fois que je ferais des concerts, des émissions TV, je pensais qu'à ce moment-là, je serais heureuse, et en fait, c'est pas le vrai bonheur, il vient pas de là, en fait. Et c'était frustrant pour moi d'atteindre des objectifs, comme tu disais, taratata, c'était à vous de me retrouver numéro 1 des ventes iTunes et de me dire ah c'est chouette. Et puis quelques jours plus tard, bah en fait j'ai toujours le même vide et je veux à nouveau le remplir en fait. C'est à ce moment-là que je me dis mais en fait ce qui compte c'est la quête, ce qui compte c'est tout ce qu'on donne et tout ce qu'on partage les uns les autres et tout ce qu'on on nourrit et à l'intérieur de soi en fait. Et le bonheur il est ici, il est maintenant, il est pas demain, c'est le moment présent. C'est vraiment quelque chose que j'essaye voilà de me rappeler parce que j'ai l'impression que c'est propre à l'être humain de penser que avoir plus de choses et avoir plus d'acquisitions nous rendra plus heureux. Et moi je l'oublie souvent, parfois je me dis ouais mais une fois que j'aurai atteint tel truc, une fois que j'aurai tel truc je serai plus heureuse. Et ah non quoi, non, c'est vraiment un leurre quoi. Donc c'est tellement important de prendre soin de soi, c'est tellement important de se nourrir et c'est tellement important de célébrer en fait cette chance qu'on a d'être ici en vie maintenant et d'avoir des gens qu'on aime autour de nous. Et voilà, moi je m'en rends encore plus compte maintenant. Je viens de sortir 2 semaines très difficiles avec des proches hospitalisés et moi-même j'ai eu le Covid aussi. Et en fait dans ces moments là tu te dis mais qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui compte vraiment? Ce qui compte c'est ce qu'on donne, c'est l'amour qu'on se donne et les uns aux autres quoi.
Oui. Ouais, ouais, complètement. J'adore ton podcast. Je t'ai laissé un petit commentaire d'ailleurs sur Apple Podcast.
Merci.
Et je voulais savoir, tu l'as écrit d'un coup, tu l'as fait plutôt à l'oral, ça s'est passé comment? Tu as mis combien de temps avant de réaliser la première saison?
En fait, c'était toutes les semaines j'écrivais un épisode. Donc en fait, ils étaient
au fur et à mesure alors.
Voilà, ils étaient pas préparés à l'avance. Il y avait un épisode qui sortait toutes les 2 semaines. Et donc, je savais le lundi que je me mettais à l'écriture. J'avais une semaine en fait pour l'écrire. Et donc, du coup, bah, parfois c'est pas facile quoi, parce que ça me replongeait dans beaucoup de souvenirs, puis parfois ça me rappelait énormément de choses, et voilà, donc ça a été progressif, et puis là maintenant j'ai pris un peu d'avance, c'est vrai, pour la saison 2 qui vient de commencer, parce que je suis en même temps en promo pour mon album et donc je suis beaucoup sur la route et beaucoup en déplacement, et j'avais pas envie de précipiter tout ça, donc j'ai pris des moments où j'avais plus de temps libre pour écrire, mais pour moi écrire, c'est comme chanter, c'est comme composer, c'est un muscle en fait, au plus tu le fais, au plus tu pratiques, au plus vite ça vient, au plus t'as des mécanismes, et c'est pour ça que je disais au début de notre discussion l'importance de faire, parce que c'est vraiment au plus tu fais, au plus vite les choses viennent, au plus il y a des automatismes et au plus on prend de la liberté, et c'est ça qui est vraiment chouette.
Oui, je voulais te demander par rapport notamment à l'écriture, comment as-tu mis en place la scénographie, le fil conducteur de ton spectacle? Comment prépares-tu ce que tu vas raconter au public entre les morceaux?
Eh bien, moi, je vois la musique, en tout cas mes spectacles, comme des contes, comme un conte, en fait. On dit que les joueurs de kora, qu'on appelle les griots, sont des hommes, en fait, c'est un instrument qui est réservé aux hommes, et on les appelle les conteurs d'Afrique de l'Ouest, les conteurs et les magiciens. Et moi, j'aime me voir aussi comme une conteuse, et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses autour de ma musique qui sont aussi liées à la parole, à la transmission, au partage. Et donc, il y a un vrai fil conducteur, un vrai voyage, c'est une vraie épopée, à la fois dans mon album, dans sa construction, mais aussi sur scène. C'est aussi un spectacle vraiment qui est lié aussi à l'image, à l'évasion. Et je parle beaucoup parce que voilà, je raconte cette quête en fait, et tous les morceaux de l'album et puis tout ce que je crée a été vraiment très fort lié à des voyages, que ce soit des voyages intérieurs ou des voyages extérieurs à travers des cultures différentes. Donc c'est très spontané, mais en même temps je pense cette chance là en fait d'avoir une vie qui, peut-être aussi le fait d'écrire mon podcast m'a aidé, mais je me rends compte que nos vies elles sont vraiment des chemins en fait, et ma vie est parsemée de chemins, de rencontres, de voyages qui m'ont marqué, comme c'était le cas en Espagne avec ma rencontre de la Cora, en Afrique en retournant au Cameroun et plus récemment au Sénégal. Donc voilà, tous ces voyages, puis aux États-Unis aussi évidemment, en Angleterre, tous ces voyages qui m'ont nourri énormément, et ben je les compte en musique. You gave me life tonight.
Mamiyanga, you got nothing on me, nothing on me, nothing on me. Mamiyanga, you got nothing on me. I'm all you need, I'm all you see. Mamiyanga, you got nothing on me, nothing on me, nothing on me. Mamiyanga, I'm here to stay. You made my world light up. Nothing ever came so easily. Boy, I know that it's love and right, but it's feeling we just can't fake. Take my hand, hold me tight. I'm burning up for you. Got a fire inside. Can't
est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir te produire sur scène alors que tu étais malade? Est-ce que tu as des remèdes à nous conseiller?
Bah écoute, ça ne m'est jamais arrivé. Je dois être honnête, j'ai une super santé. Je touche du bois, mais je ne suis jamais malade. Et donc là, c'est vrai que, par exemple, demain, j'ai un concert et j'ai dû, en fait, avec le Covid, pour la première fois de ma vie, annuler 3 concerts. Ça m'était jamais arrivé. Et là, finalement, voilà, aujourd'hui, je suis pas complètement rétablie. J'ai encore tout grasse, etc. Et j'ai pas encore mon souffle qui est complètement là. Et donc, pour la première fois, en fait, demain, je vais être, bah voilà, je vais devoir chanter sans être au top de ma forme. Je pense qu'il faut être doux avec soi-même dans ces cas-là. Évidemment, hein, y a tout ce qui touche aux tisanes, au miel, au thym, au citron. Mais tout ça, c'est un petit peu des choses qu'on connaît. Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est de chanter comme si on n'était pas malade. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit de « je vais bien, mon corps va bien et tout va bien ». Et je pense qu'une fois que déjà qu'on oublie, en fait, et qu'on se dit pas « je suis malade, c'est catastrophique », avant de monter sur scène, de se rappeler « oh mon Dieu », ben se dire « voilà, je suis là pour donner, je suis là pour partager ». Et puis aussi, bah, y a rien de mal, en fait, hein, si à un moment donné, on peut dire dans la rigolade, ah voilà, aujourd'hui, je suis un peu moins en forme. En fait, on est des êtres humains, donc, moi, j'ai déjà vu des artistes sortir de scène, parce que, voilà, ils étaient malades, il fallait qu'ils fassent une pause, puis revenir. En fait, à partir du moment où on est décomplexé, à partir du moment où on est humble, on dit, voilà, je suis là, j'ai envie d'être là avec vous, et puis, je vais vous donner de mon mieux. Je pense que tout le monde est reconnaissant, et y a personne qui va dire, oh mon Dieu, elle est malade, la honte. Voilà, donc, être tendre avec soi-même, faire de son mieux, et puis, ne plus trop y penser. Voilà, ne pas trop se dire, je suis malade, se dire, je suis en pleine forme et tout va aller, et puis évidemment renforcer sa technique quoi. Quand le support vocal est un petit peu plus faible, bah le renforcer un petit peu plus quoi.
Oui, est-ce que tu veux bien nous parler de ton actualité? Moi évidemment je mettrai tous les liens en barre d'infos.
Ben oui, avec grand plaisir. Ben je viens donc de sortir mon premier album qui s'appelle Beloved, qui est disponible partout. Ma tournée commence du coup l'année prochaine avec une première date au Café de la Danse à Paris le 9 février. Donc évidemment, ça me ferait très très plaisir de vous y voir si vous êtes dans la région parisienne. Il y a plein d'autres dates qui vont être annoncées aussi. Et puis j'ai un podcast du coup qui s'appelle Bi qui sort là toutes les 2 semaines et j'espère vraiment qu'il vous fera beaucoup beaucoup de bien. Donc voilà.
Très bien. Et une dernière question que je pose toujours. Qui aimerais-tu écouter sur le podcast parmi les chanteurs, acteurs ou professeurs de chant francophones?
Bah écoute, déjà tu as déjà fait Anne-Sila. Du coup, j'avais d'ailleurs adoré l'épisode avec elle parce que je trouve que c'est une chanteuse merveilleuse. Écoute, je pense que j'aimerais beaucoup écouter mon amie Barbara Pravi.
Ah oui.
Ouais, parce que enfin voilà, moi j'ai eu la chance là tout récemment de sortir un morceau avec elle qui s'appelle Prière à nos guides. Oui. Elle a eu quand même une année assez folle avec l'Eurovision, avec aussi une grosse pression sur les épaules et puis une grosse exigence aussi vocale à maintenir et puis un emploi du temps aussi de folie parce qu'elle a sorti son album là maintenant, elle vient de ressortir un projet justement sur lequel je fais partie qui s'appelle Les Prières, et donc ces derniers temps je sais qu'elle a été pas mal malade, elle a eu pas mal de petits soucis à chaque fois et elle a su faire des prestations vocales magnifiques, donc je pense que ça serait très intéressant de la voir pour justement répondre à cette fameuse question de comment est-ce qu'on fait quand on a la pression, le stress et en même temps qu'on a la voix qui fatigue un petit peu. Je pense qu'elle, elle pourra bien répondre à ta question.
D'accord, c'est vraiment une invitée que j'aimerais beaucoup avoir. J'avais découvert il y a quelques années, c'était sur une reprise de Big Flo et Oli sur YouTube. Ah, je m'étais dit, mais cette fille, elle a trop quelque chose. Elle reprenait C'est dommage. Et okay. Vraiment, je trouvais qu'elle avait quelque chose dans l'interprétation. C'est pas étonnant qu'elle ait touché beaucoup, beaucoup de monde dans la suite de sa carrière.
Aussi, ce que je pense, enfin, pourquoi je pense aussi à elle, c'est parce qu'elle a eu un parcours aussi long. Ça a été une montée qui a été vraiment lente. Elle est là depuis quand même assez longtemps. Et je pense que c'est tellement intéressant aussi de, voilà, d'échanger avec des personnes qui ont eu des difficultés et qui ont jamais lâché leur rêve, qui ont continué. Et moi, s'il y a vraiment un message que je peux transmettre et que je peux partager aux auditeurs, c'est continuer de croire en vos rêves, continuer de profiter du moment présent, de la quête et de toutes les choses que la vie nous apporte et nous apprend au quotidien. Et vraiment, voilà, garder la confiance et faire preuve de patience et de lâcher prise, voilà. C'est vrai que c'est une carrière, c'est une course de fond, et c'est vraiment ça. Il y a des artistes parfois pour qui on a l'impression que ça se passe en 2 secondes, mais vraiment ce qui est beau, c'est que on a tous des chemins uniques et singuliers. Il faut vraiment profiter de cette route, quoi. Et si on sent que c'est juste et que ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est ça qui nous nourrit vraiment, c'est que c'est ça que la vie veut qu'on fasse. Donc continuons et ne lâchons pas nos rêves.
Bon, ben merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je te dis à bientôt.
Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Daddy said that I
should love myself. But he didn't look me in the eyes. All I saw was a reflection, my hero with imperfection, and no place to hide. Mama said, don't be so hard on yourself. But she doesn't see how much I try. All I saw was a reflection, my hero with imperfection, and no place to hide. Self-love is so hard to find. You give yourself away and you wonder why. Self-love is so hard to find when you are. Saying life, you get what you ask. Just don't ask for too much. Don't ask for too much. Cause I know them well, those demons of myself. One day somehow I let them go. Self-love is so hard to find. You give yourself away and you wonder why. Self-love is so hard to find when you
La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités. Retrouvez-moi sur Clémentine Coppolaine sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. Je vous souhaite une belle pratique vocale.